moi, je me sens un peu contrebandier et illégitime hein, pour changer le monde sur les questions alimentaires auxquelles je m'intéresse en fait depuis peu. Et donc moi, je suis géographe à l'INRAE avec des recherches en France et en Amérique latine. Et mon point d'entrée a plutôt été l'agriculture dans ces territoires et ces organisations, avec parfois un regard sur l'alimentation, par exemple pour réinterroger la reconnexion entre producteurs et consommateurs par des circuits alimentaires de proximité, ou encore pour étudier la recomposition des autonomies productives et alimentaires des paysans andins. Mais je me suis bien entouré et j'ai fait bosser les autres pendant plusieurs années. Et donc, c'est en leur nom, aujourd'hui, que je fais cette présentation, avec un titre d'exposé qui doit être bien compris. Je ne vais pas vous donner la solution miracle pour changer le monde. On l'a trouvé hier, donc c'est... ou alors ce sera pour la prochaine fois. Mais je vais défendre une thèse pour commencer à y penser. Et je pars du constat que la diversité des formes d'agriculture et d'alimentation est une régularité historique dont nous n'échapperons pas et que cette diversité tend même à s'accroître. Et si ce monde agricole ou ces mondes agricoles et alimentaires sont nécessairement et ontologiquement divers, un des moyens de refaire le monde vers plus de durabilité, c'est d'analyser et de transformer les interfaces, les interactions, les coévolutions et les hybridations entre les formes d'agriculture et les formes d'alimentation. Donc ça, c'est le propos général que je vais essayer de vous présenter. Et c'est le défi que nous nous sommes donné avec plusieurs collègues depuis 2016, en examinant ce que nous avons appelé, merci Bruno, tu l'as indiqué, la coexistence et la confrontation des modèles agricoles et alimentaires. Et donc ce travail a donné lieu à un ouvrage et à un double numéro spécial. Et Patrick et Claire, qui sont ici côte à côte, et ça n'est pas un hasard, ont contribué à ce chantier. Voici, vous êtes des francs collaborateurs. Et donc, je compte sur vous pour préciser, compléter ou même me contredire parce que rien n'est clos. Et donc, je vous présente ce travail de recherche et non d'accompagnement des acteurs, mais la majorité des chercheurs concernés sont fortement impliqués dans des dispositifs en partenariat avec des acteurs, ce qui a orienté leurs analyses et leurs postures épistémologiques que j'analyserai à la fin de ma présentation. Alors, il faut que j'arrive à retrouver mon... Donc, les premières séquences du colloque nous ont montré que l'alimentation est un fait composite. C'est un fait social parce qu'il nous lie et nous oppose. C'est un fait identitaire parce qu'il nous définit, nous rassemble et nous oppose. C'est un fait culturel parce qu'il s'hérite comme un patrimoine à réinventer. C'est un fait hédonique parce qu'il se savoure et se partage. C'est un fait nutritionnel parce qu'il fonde notre santé. C'est un fait économique parce qu'il se partage et se confisque. C'est un fait technique parce que l'outil est nécessaire pour obtenir, pour transformer, pour distribuer et pour conserver les aliments. Et c'est un fait politique parce qu'il se définit et se régule. Et que la destinée de l'alimentation se joue à toutes les échelles spatiales et organisationnelles de nos sociétés. Celle de l'individu, intime, celle de la table, parfois partagée, amicale ou conflictuelle autour de régimes diététiques différents, celle des territoires comme des espaces vécus et de projets, à la croisée de celle des filières où la valeur des aliments se compose, celle de la science et de l'industrie qui la pense et l'oriente, celle du politique qui la régule ou pas, et celle des médias qui en rencontrent plus ou moins honnêtement, celle des réseaux sociaux qui la discutent, celle des organisations civiles qui s'en saisissent pour défendre des positions et construire des utopies, celle de la finance qui en profite. Et donc, bref, l'alimentation est un bel objet systémique et en même temps un fait social total. Alors pour caractériser, j'aurais dû mettre des guillemets hein, bien entendu sur cette expression qui n'est pas de moi, vous l'aurez reconnu. Alors comment caractériser sa diversité sans perdre sa globalité? Au cours de ce colloque, nous avons employé des qualificatifs pour distinguer des catégories d'alimentation au sens large à différentes échelles d'analyse. Lorsqu'on parlait des mangeurs, on a mentionné des mangeurs éco-responsables, des jeunes sensibilisés, des inquiets, des adeptes de l'industriel et des hédonistes traditionnels. Il s'agit de catégories produites par l'expertise pour réduire la grande diversité des profils de mangeurs. Plus tard, pour une analyse à des échelles plus globales. On a parlé de modèles alimentaires fordistes ou encore de modèles alimentaires industriels. Et d'autres ont qualifié l'alimentation en termes de slow food ou d'alimentation conventionnelle. Mais tous ces qualificatifs de l'alimentation ne sont pas du même ordre. Alors, ils renvoient ces qualificatifs à des modèles qui sont en fait des représentations abstraites, schématiques et simplifiées de ce que nous faisons d'une réalité complexe. Et donc ces modèles agricoles ou alimentaires recouvrent trois acceptions. D'abord, les chercheurs et les experts construisent des modèles en tant qu'archétypes, en tant que type catégorie d'une réalité observée aujourd'hui ou dans le passé, afin de caractériser sa diversité et de faciliter sa compréhension pour une action transformative. Alors, ces modèles sont souvent décrits sous des termes de régime, de référentiel, je pense à Muller, ou alors de style ou de système, système agricole, système alimentaire, avec notamment des travaux ici de plusieurs personnes qui ont travaillé sur les systèmes alimentaires et systèmes alimentaires territorialisés. Mais un modèle agricole ou alimentaire peut aussi être un futur désiré que des acteurs réclament, à l'exemple de l'agriculture paysanne, hein, qui est revendiquée par le syndicalisme agricole, ou de l'alterconsommation qui est promue par des associations comme Slow Food. Et enfin, un modèle est parfois défini comme un ensemble de normes pour l'action dans un processus de certification ou d'évaluation dont nous venons de parler, comme l'agriculture biologique ou l'alimentation halal ou cachère. Et il s'agit alors des actions qui reproduisent le système ou participent à ces changements et qui s'inscrivent dans un cadre normatif avec des politiques agricoles, des cahiers des charges, des règles d'action et qui résultent de rapports de force ou de compromis institutionnalisés entre acteurs et leur modèle désiré. Alors, certains chercheurs utilisent ce concept de modèle agricole ou alimentaire en combinant les trois acceptions. Ainsi, le modèle comporte d'une part une dimension analytique et d'autre part une dimension normative que les acteurs se donnent pour penser et agir. Et ces deux facettes sont en tension et doivent être explicitées à mon sens. Par exemple, pour montrer que l'agriculture paysanne de Mendras, qui est un archétype analytique, n'est pas l'agriculture paysanne de la Confédération paysanne, laquelle représente un futur désiré. Et par ailleurs, un modèle agricole et alimentaire renvoie à une cohérence globale des rapports que l'homme établit avec l'activité, avec la nature, la technique, la connaissance, l'État, le marché et le territoire. Et donc, nous retrouvons ici sa dimension de fait total qui devient un objet majeur de nos sociétés et de ses projets. Et le concept de modèle suppose aussi qu'un ensemble d'acteurs bâtit un consensus minimal pour en faire une référence collective à défendre ou à critiquer. Et donc, ces modèles sont aussi un élément du langage commun. Alors, nos travaux, quand je parle de nos, c'est l'ensemble des chercheurs qui étaient associés à cette aventure, s'inscrivent dans une histoire des recherches sur l'analyse de la diversité des formes d'agriculture et d'alimentation. Et donc, depuis plus de 60 ans, et davantage si on remonte à Tchaïonov ou à d'autres, les chercheurs et les acteurs du développement caractérise la diversité des formes d'agriculture et d'alimentation. C'est encore ce que nous avons cherché à faire. Nous construisons des catégories et nous interprétons leurs différenciations. Plus récemment, les recherches ont porté sur les fonctions et sur la mesure et la comparaison des performances de ces diverses formes d'agriculture et d'alimentation. On a donc un changement dans la façon de construire nos questions. Mais ces recherches considèrent les diverses formes de façon juxtaposée, souvent de façon duale. Dans l'agriculture, c'est le conventionnel qui s'oppose à l'alternatif, l'agro-industriel aux paysans, les OGM aux non-OGM, le latifundium au minifundium en Amérique latine, etc. Et dans l'alimentation, on l'a vu également au cours de ces journées, c'est le moderne face au traditionnel, le conventionnel face à l'alternatif. Je pense par exemple à la présentation de Bruno et Victoria qui était complètement structurée sur cette opposition duale. C'est le carné versus le végétalisé. Et notre dualisme, il est consubstantiel d'un héritage intellectuel, politique et culturel. En effet, nous sommes soumis au dualisme de la biologie, c'est le masculin et le féminin, de certaines religions, Dieu et le diable, de conception morale, c'est le bien et le mal, de philosophie, qui oppose par exemple l'intelligible et le sensible, de courant de pensée, par exemple le corps et la pensée de Descartes, et d'organisation politique, la droite et la gauche au Parlement. Et donc ce dualisme facilite la pensée, structure nos controverses, mais gomme les nuances d'une réalité qui dessine en fait une large gamme. Et les modèles sont donc à la fois nécessaires pour penser et agir, mais ils sont aussi un appauvrissement de notre capacité à saisir le réel, en particulier dans une catégorisation duale des choses. Par ailleurs, il ne suffit pas de catégoriser ou même de comparer et d'accompagner des situations techniques, économiques, et organisationnelles, institutionnelles comme autant de figures indépendantes et juxtaposées. Les travaux portent peu d'attention aux interactions, qu'il s'agisse de rapports de force. Alors, au cours de cette semaine, plus que davantage, mais au rapport de concurrence, de coopération, d'hybridation, mais aussi aux propriétés, et ça nous en avons peu parlé, qui résultent de ces interactions et aux controverses et aux conditions de la gouvernance de cette diversité. Et là je pense que c'est aussi un des sujets aussi de la journée. Et ce sont sur ces questions que nous avons travaillé en proposant une série de travaux conceptuels et d'études de cas pour comprendre comment les interactions entre ces modèles agricoles et alimentaires. Et donc, nous montrons, c'est l'hypothèse que nous avons posée, mais pour la critiquer, bien entendu, que ces interactions sont au cœur des processus et des stratégies de développement territorial et ouvrent le champ des possibles, et qu'elles peuvent être de diverses modalités et combinées. Coprésence, cohabitation, complémentarité, synergie, coévolution, hybridation, ou alors confrontation, concurrence, marginalisation, exclusion. Et c'est pour lever toute ambiguïté et rappeler que ces interactions n'ont souvent rien de pacifique et de tranquille que l'ouvrage et le numéro spécial s'intitule « Coexistence et confrontation des modèles agricoles et alimentaires ». Bien que la coexistence, étymologiquement, n'est pas par essence pacifique, hein, mais il a fallu le préciser parce qu'il y avait souvent des malentendus. Alors, très brièvement, je vous présente cet ouvrage et ce numéro spécial qui est paru aux éditions donc Quae en 2021, que j'ai coordonné avec Sylvie Lardon, Claire Cerdan, Salma Loudi et Denis Sautier, et du numéro spécial que j'ai coordonné avec Nathalie Ostiou sur cette même thématique et qui est paru en 2020 dans la Review of Agricultural Food and Environmental Studies. Alors, très, très brièvement, mais c'est pour n'oublier personne, donc cet ouvrage est préfacé par Yann Douve van der Plug et s'organise en 5 parties et 26 chapitres qui sont rédigés par 36 auteurs. Alors, il est sous-titré « Un nouveau paradigme du développement territorial » pour préciser que c'est à l'échelle du territoire que nous avons centré nos travaux et nous formulons le postulat qu'une meilleure prise en compte de la coexistence et de la confrontation des modèles agricoles et alimentaires ainsi que leurs interactions à différentes échelles spatiales et organisationnelles, favorisent la reconnaissance et le soutien de combinaisons potentiellement pertinentes pour un développement territorial durable. Et l'ouvrage propose d'une part un cadre d'analyse globale que je vais vous présenter ensuite, et d'autre part plusieurs illustrations de situations de coexistence de par le monde, donc dans l'Europe géographique, en Amérique du Sud, dans l'Asie de l'Est et du Sud-Est, au Burkina Faso, et des approches comparatives. Alors, c'est disponible gratuitement en ligne. Et le numéro spécial, il y a 10 articles avec 33 auteurs et qui couvrent également un large champ géographique. Alors, sans détailler le processus d'élaboration de ces documents, je tiens à souligner qu'ils sont une production collective dans le cadre de 6 séminaires et 2 colloques internationaux qui ont permis de consolider la communauté des auteurs de l'ouvrage, mais aussi de produire le cadre d'analyse. Alors, pourquoi s'intéresser à la coexistence et à la confrontation des modèles agricoles et alimentaires? La première raison est qu'après des décennies de politiques publiques qui tendaient à les homogénéiser, force est de constater que ces modèles se diversifient. En effet, la globalisation n'a pas uniformisé les modèles agricoles et alimentaires dans les territoires, en dépit de leur circulation à travers la planète, par exemple lors de la révolution verte, de l'industrialisation de la production, de la transformation et de la distribution alimentaire, ou encore dans l'affirmation de l'agroécologie, récemment comme un horizon partagé à l'échelle internationale. Alors, je vais rappeler des choses qu'on s'est dites, mais tirer d'autres éléments. Alors, dans un premier temps, c'est l'intensification massive des flux de marchandises, de capitaux et d'énergie, et de transformations techniques majeures, en particulier celles qui reposent sur les nouveaux régimes de sélection génétique, sur l'usage d'intrants chimiques et sur l'emploi d'énergies fossiles. L'urbanisation, dont on a peu parlé, la concentration des structures de production, de transformation et de distribution et les nouvelles demandes alimentaires soutenues par des politiques publiques favorables aux échanges internationaux et à la baisse des prix de l'alimentation ont également favorisé l'industrialisation de cette agriculture et de cette alimentation. Et cette industrialisation, elle est globale à l'échelle de la planète. Elle est dominante au regard des quantités produites et des rapports de force entre les acteurs des systèmes alimentaires. Alors ces processus, comme on l'a vu, ils sont bien connus. Et le colloque ne pouvait pas tout couvrir, mais les analyses historiques me semblent néanmoins essentielles pour bien comprendre ce passé et s'en saisir. Par exemple, la reconfiguration historique des ressources stratégiques, le travail, l'énergie, puis la terre et maintenant l'eau, et l'émergence de nouvelles ressources stratégiques, les finances, l'information, le numérique. C'est Patrick qui nous a rappelé hier que nous oublions dans le cercle des grands acteurs la finance, mériterait d'être examinée. Et comment l'histoire des technologies, le machinisme agricole, l'ingénierie de la transformation des aliments, dont on a aussi peu parlé, reconfigure la croissance de la productivité du travail agricole et les nouveaux aliments transformés. Donc moi j'invite à ce que, pour penser demain, on a quand même intérêt à conserver un œil sur notre passé. Et cette industrialisation, là aussi, on est tous d'accord, elle montre ses limites à de nombreux égards. Donc malgré la croissance de la production alimentaire par habitant et la forte productivité du travail, ce système alimentaire industriel, il est vulnérable et génère de nombreuses problématiques, on l'a vu, environnementales, spatiales, économiques, sociales, sanitaires. Et pour répondre à la défaillance de la modernisation et à de nouveaux enjeux de développement, tels que le réchauffement climatique, un florilège de propositions voit le jour depuis la recherche, depuis la pratique, depuis les mouvements sociaux et les politiques publiques. Et ces alternatives, je mets des gros guillemets, sont longtemps restées marginalisées. Et progressivement, certains modèles alternatifs gagnent en reconnaissance. Donc on l'a vu, l'agriculture biologique, l'agroécologie, l'alimentation locale, le véganisme et d'autres restent plus dans l'ombre. Alors, le concept d'alternatif, on en a beaucoup parlé, on a vu sa polysémie. Selon les auteurs, il renvoie soit à l'existence d'un mouvement social engagé dans le conflit politique, je pense aux travaux de Pélinck, ou dans des revendications de justice, ou encore au projet des acteurs. Là, je pense aux travaux, par exemple, de Ronan Levély, suivant les systèmes alimentaires alternatifs, à des niches d'innovation en marge du système socio-technique qui est hérité de l'histoire, ou encore à la faible institutionnalisation, ou encore à la marginalité sociale, économique, spatiale. Mais on voyait bien que la diversité de la façon dont on se saisit de l'alternatif amène à poser des questions différemment. Et c'est cette polysémie du concept qui le rend parfois difficile à utiliser et qui mérite d'être prudent. La viande cellulaire est alternative. Alors, ces modèles alternatifs sont aujourd'hui tolérés, et parfois même promus, pour répondre aux limites des modèles conventionnels. Et cette requalification positive de l'affirmatif s'affirme depuis les années 90 dans ce que Laurence Busch a qualifié le quality turn et que Yuna nous a aussi également rappelé, et par lesquels surgissent de nouvelles qualifications de l'agriculture et de l'alimentation, l'agriculture biologique, le commerce équitable, on l'a vu, l'indication géographique, etc. Alors, comme le souligne Jan Douw van der Ploeg dans la préface de l'ouvrage, la coexistence et la confrontation des modèles agricoles ne sont donc plus celles d'hier. Le siècle passé, elles étaient assez stables, alors que les situations de coexistence et de confrontation sont aujourd'hui multifacettes, elles sont instables, elles sont traversées de formes hybrides. Et la nouvelle diversité des formes d'agriculture et d'alimentation façonne des mosaïques bigarrées qui nous obligent à une analyse minutieuse des situations locales. Ce qui ne veut pas dire que les leviers du changement se situent seulement au niveau local. Alors, pendant l'animation de ce chantier de recherche, j'ai organisé une veille d'Internet sur la France pendant 4 ans avec la collaboration de documentalistes et chercheurs. Et nous avons ainsi diffusé un bulletin bimensuel qui rassemble finalement 958 publications. Et nous avons analysé le contenu de ces publications par des méthodes de lexicométrie avec Guillaume Olivier, et ce qui nous permet de cartographier les débats sur la coexistence et la confrontation des modèles agricoles et alimentaires entre 2017 et 2022. Alors, je n'aurai pas le temps de vous présenter les résultats en détail, mais je souhaite souligner que les débats s'organisent dans trois principaux domaines. La recherche, avec notamment des controverses sur l'impact de la consommation de viande et sur l'élevage, des questions sur l'impact des systèmes de production sur le changement climatique, et enfin des innovations agroécologiques, dont nous avons encore peu parlé pendant ce colloque, me semble-t-il. Le second domaine concerne la configuration des systèmes alimentaires, depuis la question des productions agricoles et ses certifications par les labels jusqu'aux enjeux de consommation alimentaire, donc avec les enjeux de solidarité, de sécurité nutritionnelle, de prix, en passant par les intermédiaires des filières et les institutions qui régulent leurs interactions avec des débats sur les normes, les règles, les conventions, les politiques publiques. Et les débats sont alors fortement structurés par l'agriculture biologique, qui est vraiment centrale, qui est un marqueur des débats, et les conditions de son déploiement et de sa coexistence avec les autres formes d'agriculture. Et l'autre polarité des débats concerne la gouvernance des systèmes alimentaires territorialisés et leur résilience face à la crise Covid, qui a été un élément également fort de cette période. Dans le troisième domaine, les modèles agricoles sont principalement débattus dans un cadre politique et se déclinent sous différentes thématiques, la réforme de la PAC, le monde des acteurs de l'agriculture paysanne et d'un activisme rural, et enfin la cogestion État-profession qui est toujours à l'agenda. Des débats et sans doute des négociations. Alors cette structure des débats dans les trois grands domaines, recherche, marché et politique, confirme les travaux théoriques sur les espaces d'émergence et de débat des modèles agricoles et alimentaires. Et plusieurs thématiques majeures ont rythmé les débats sur la période étudiée. D'une part, le processus Egalim, et d'autre part, les controverses liées aux pesticides, le glyphosate et les néonicotinoïdes en particulier. Et bon, les pesticides sont évoqués avec des degrés d'importance divers, mais sont évoqués dans 40% des documents. Donc là aussi, on a un cœur d'attention absolument majeur de ce que sont les systèmes agricoles et alimentaires actuels. Et enfin, en termes de débat, le corpus montre également le développement saillant de la notion d'agribashing comme stratégie de neutralisation de la critique du modèle conventionnel. Et autre point, qui est un des résultats de notre analyse, c'est que les techniques de lexicométrie dites d'analyse de sentiment montrent une dégradation de la tonalité du débat autour de la coexistence au long de la période couverte. Il y a un durcissement de la nature des échanges. Alors, nous devions aussi donc définir notre objet d'analyse, parce que finalement, à savoir qu'est-ce qu'une situation empirique de coexistence. Et ça suppose de préciser quels acteurs ou quels systèmes interagissent. Les producteurs, est-ce qu'on considère l'acteur ou des systèmes, les acteurs d'un territoire ou d'une filière, et dans quelle scène, c'est-à-dire dans quel cadre d'interaction, est-ce que c'est à l'échelle d'une exploitation qu'on s'interroge à la question de la coexistence, ou d'une coopérative, d'un territoire, d'une filière, d'un système d'innovation ou encore d'un dispositif de gouvernance. Mais il est aussi nécessaire d'interroger comment ils interagissent. Et donc là, est-ce qu'on se penche sur la question des conventions, des régulations, des flux de matière ou d'argent? Est-ce qu'on s'intéresse à la structure des controverses et à leur émergence, aux rapports de force? Et autour de quels objets? Est-ce que les points d'attention de cette coexistence et de cette confrontation, est-ce que c'est le travail, les systèmes techniques, les prix, les ressources naturelles, les critères de qualité, la connaissance, l'identité? Et donc, les situations de coexistence sont en effet observées différemment à l'échelle d'une exploitation, d'une coopérative, d'un territoire ou d'une nation. Et des situations de coexistence qui s'avèrent vertueuses à certaines échelles ne le sont plus à d'autres. Et de même, les enjeux de coexistence varient selon les problématiques traitées. Par exemple, sur un territoire donné, l'enjeu de la coexistence peut concerner la question des concurrences sur les ressources ou celle de la construction d'une identité territoriale. Alors, nous proposons dans l'ouvrage un cadre d'analyse de la coexistence structuré en quatre dimensions et qui sont héritées de quatre grandes périodes de la pensée sur le développement territorial. D'abord, la spécialisation et la diversification qui ont marqué les travaux et les questionnements des années 80. L'innovation qui est un marqueur fort des questions sur le développement territorial des années 90. L'adaptation, qui devient une question centrale des années 2000, et la transition alimentaire, qui est plus à l'œuvre aujourd'hui. Et ces quatre dimensions sont abordées de façon dynamique comme des processus, et elles sont considérées à la fois comme des facteurs et comme le produit de dynamique à l'œuvre par la coexistence et la confrontation des modèles agricoles et alimentaires. Alors, derrière le choix de ces dimensions, c'est qu'il y a des hypothèses sur dans quelle mesure elles structurent nos questions et la façon dont les formes d'agriculture et d'alimentation peuvent interagir. Interroger, par exemple, la spécialisation et la diversification, ça permet d'aborder des questions de rapport de domination, voire d'hégémonie, de marginalité des politiques agricoles et alimentaires, mais aussi des choix politiques qui sont faits à l'échelle européenne sur la façon de réguler une diversité smart. Je ne sais plus comment c'est formulé, le terme m'échappe là maintenant, mais... Porter l'attention au processus d'innovation, à l'œuvre dans des interactions entre les modèles agricoles et alimentaires, ça offre un regard original sur des innovations territoriales et sociales, et ça relève d'hybridation féconde ou au contraire des verrouillages de l'innovation pour transformer ces formes d'agriculture et d'alimentation. Interroger la capacité d'adaptation des systèmes agricoles et alimentaires, c'est rechercher des interactions, des complémentarités ou des concurrences entre des formes d'organisation et la façon de les combiner, voire de les hybrider à l'échelle des territoires. Et enfin, les transitions à l'aune de la coexistence des modèles agricoles et alimentaires qui s'institutionnalisent, hein, comme on l'a vu, dans la science, dans l'espace politique, dans les marchés, dans la société, permet d'envisager des configurations plurielles où divers modèles coexistent dans le territoire sans que l'un n'efface l'autre. Alors, j'aurai pas le temps de vous présenter les 26 chapitres de l'ouvrage et les 10 articles, mais pour vous allécher et vous inviter à les lire, voici quelques titres et thématiques, notamment sur les questions alimentaires. Donc, Christine de Sainte-Marie et ses collègues, notamment Claire Cerdan, examinent la controverse concernant les fromages au lait cru et les fromages au lait pasteurisés dans deux appellations d'origine contrôlée, le Saint-Nectaire et l'Osso Irati. Et les auteurs défendent l'idée que la production de lait cru et celle de lait pasteurisé pourraient coexister dans les AOP. Et on est là dans une situation, dans une controverse qui a été très vive. Je ne sais pas d'ailleurs où on en est. C'est toujours vif. Voilà. Deuxième travail, on a Yuna Chifolo et ses collègues qui testent une approche permettant de caractériser le système d'approvisionnement d'une ville, en l'occurrence Montpellier, et ils confirment que la complémentarité entre les filières longues et courtes et montre plus largement que l'articulation des trois marchés spatialisés favorise la résilience de l'approvisionnement alimentaire de Montpellier. À nouveau, Claire Cerdan analyse le processus de spécialisation et de diversification de systèmes alimentaires dans l'État de Santa Catarina au sud du Brésil. Et à la fin des années 2000, s'est organisée une coexistence pacifique ou passive entre le modèle agro-industriel et le modèle de production fermier et artisanal. Et cette région a ainsi bénéficié de la présence des industries alimentaires pour retenir la population active, contrairement à d'autres régions du Brésil, et cette population est aujourd'hui le principal marché des agro-industries familiales. Virginie Barito et Marie Houdard, alors ça aussi je l'ai choisi puisque nous avons ici un ancien représentant de la responsabilité des questions qualité à Carrefour. Virginie Barito et Marie Houdard analysent un partenariat tripartite entre une firme multinationale, donc Carrefour, qui porte l'initiative, et des acteurs locaux de la production de lait et de la transformation fromagère en Auvergne. Les conditions du cahier des charges de cette filière qualité, je mets des guillemets puisque c'est comme ça qu'elle est, elle est qualifiée, elle est définie, sont plus strictes que les AOP Bleu d'Auvergne et Fourme d'Ambert, en imposant notamment une alimentation tout foin et du lait cru. Et certains éleveurs sont alors réticents à l'adoption de ces innovations qui sont contradictoires avec leur stratégie de croissance de la productivité laitière. Et dès lors, il peut apparaître paradoxal que ces innovations soient proposées par Carrefour, acteur type du modèle conventionnel, mais cette hybridation permet à Carrefour de consolider sa légitimité en matière de qualité de l'alimentation, tandis que les éleveurs et la laiterie diversifient leurs revenus dans un contexte de pression concurrentielle croissante. Voilà, je m'arrête parce qu'il y en aurait bien d'autres, c'était juste pour vous appâter, et j'espère que vous irez lire l'ensemble de ces documents. Alors, j'ai oublié de vous parler quand même d'un travail intéressant à une autre échelle, mais que je trouve aussi très intéressant, c'est Emmanuel Schenz et Nora Daoud, qui analysent la transition des systèmes alimentaires à un modèle, à un grain fin des engagements citoyens dans les groupements d'achats locaux, à travers des pratiques quotidiennes des membres et leurs conséquences sur les interactions avec l'agriculture qui sont parfois particulièrement violentes. Et selon ces deux auteurs, derrière chaque modèle agricole et alimentaire, des modèles d'engagement peuvent être identifiés à l'échelle des individus et des collectifs. Bon, je m'arrête là. Peut-être un point d'originalité également de l'ouvrage, c'est que le livre... Nous avons demandé, à, une fois que le manuscrit a été finalisé, nous avons demandé à Ronan Levelli, d'une part, et à Patrick Caron, de faire une analyse distanciée et critique de l'ensemble du manuscrit. Donc c'est une forme de recension dans l'ouvrage. Et donc vous trouverez leur texte, en deux mots. Ronan questionne les limites du concept de modèle, et Patrick nous interroge la manière dont la coexistence peut se construire, en particulier d'un point de vue politique. Alors, il y a eu des recensions également que vous pourrez lire si vous n'avez pas le temps de lire le bouquin, au moins lisez ces recensions, et puis ensuite vous verrez que vous aurez envie de lire l'ouvrage. Alors, donc, celle de Touzard dans Système alimentaire, et puis celle de Mandler dans Économie rurale. Alors, j'ai voulu faire au regard des débats de ce colloque sur les leviers du changement et les bons acteurs, entre guillemets, à mobiliser, je propose de m'arrêter un peu sur ce travail donc de Philippe Barré et de Clémentine Antin, qui donne quelques repères pour penser la transition et le changement d'échelle. Et donc la proposition, elle est réfléchie sur le monde agricole, mais il me semble que nous pourrions l'étendre aux mondes alimentaires. Alors, les auteurs mobilisent la théorie multi-level perspective des transitions socio-techniques, et propose un cadre d'analyse qui vise à situer, là, en l'occurrence, les propositions agroécologiques, dans un espace à deux dimensions. D'une part, l'amplitude annoncée de la proposition, et d'autre part, son degré de radicalité. Alors, en matière d'organisation du collectif, on distingue, d'une part, à la gauche de l'axe horizontal, des propositions qui s'adressent à un collectif particulier, à des personnes a priori engagées et convaincues. L'ambition de ces propositions se situe le plus souvent à petite échelle, bien que ces collectifs puissent s'inscrire dans une ambition de changement plus large. Donc les micro-fermes, l'agriculture urbaine. Et dans l'alimentation, on pourrait penser aux AMAP ou aux mangeurs vegan. En général, les acteurs qui participent à ces initiatives forment un groupe relativement homogène, dont l'intention est d'impulser un changement par une amplification croissante, progressive, de proche en proche. D'autre part, à la droite de cet axe horizontal se positionnent des propositions inclusives qui visent, dès leur émergence, à modifier l'ensemble du système agricole en intégrant toutes les facettes, toutes les formes actuelles d'agriculture à l'échelle d'une région, d'un pays, de l'Europe ou du monde. Par construction, les groupes cibles de ces initiatives sont hétérogènes car ils couvrent la diversité du secteur agricole. L'initiative Ecofito correspond à cette deuxième vision et la volonté d'inclusion n'exclut pas par construction une ambition forte de changement. Alors, dans le champ de l'alimentation, les politiques publiques du sel iodé dont Yves nous a parlé correspondent à cette ambition inclusive. L'axe vertical de la figure propose une structuration selon la nature du changement attendu. Soit en haut de l'axe, le changement radical porté le plus souvent par une logique de rupture ou d'autonomisation vis-à-vis du régime existant, soit en bas, un objectif d'adaptation où les acteurs du régime entament une trajectoire de transformation progressive et adaptative. Alors d'après Gilles, je ne sais pas s'il est encore là, la viande cellulaire pourrait être à gauche comme un segment de marché spécifique ou bien au contraire, et il nous l'a bien dit, d'autres acteurs le revendiquent au contraire d'être en haut et à droite avec une ambition de refonte globale du système alimentaire et donc de ce fait, comme l'interprète Gilles, des ruptures anthropologiques majeures. Alors, le croisement de ces deux axes définit quatre cadrans dans lesquels peuvent être situés les initiatives et les démarches agroécologiques et alimentaires durables. Donc voilà, bon, il y a un peu d'humour, RASPE, radical et spécifique, ATSPE, adaptative et spécifique, RADIN, radical et inclusif, ADIN, adaptatif et inclusif. Bref, mais situer les initiatives dans ces cadrans permet de donner un statut au regard de la transition agroécologique et alimentaire durable. Et ce positionnement permet donc de penser dès l'émergence d'une initiative une trajectoire spécifique favorable à la transition. Et donc l'enjeu n'est pas de décider de façon normative la qualité respective des propositions de transition, mais d'ouvrir un débat sur les options possibles et sur la possibilité de passer d'un cadran à l'autre. Et donc, quelles sont leurs portées respectives quant aux modalités de changement pour comprendre des synergies possibles et d'éventuels antagonismes. Alors, cette figure que je vous présente est une des représentations de la théorie des transitions sociotechniques. Alors, cette théorie qui est fondée au départ sur la transition des systèmes énergétiques et non agricoles et alimentaires est largement critiquée. Cependant, elle a une vertu pédagogique, notamment pour structurer certains éléments du débat qui ont été soulevés à maintes reprises par Nicolas au cours de cette semaine. On peut distinguer le paysage en haut de la figure qui représente des éléments de contexte très stables, hérités de l'histoire, un capitalisme hégémonique, des démocraties essoufflées et des régimes autoritaires qui ne disparaissent pas, d'intenses échanges de matières, de capitaux, de données et d'énergie, des religions qui définissent des cadres de régulation forts, y compris alimentaires, une urbanisation majoritaire de la planète. Donc on pourrait désormais peut-être y rajouter le réchauffement climatique qui s'impose à nous, malgré toutes nos ambitions de changement, et sans doute la crise énergétique. Et ce sont des facteurs sur lesquels, finalement, il est quand même très difficile d'agir et qui s'imposent à nous à moins d'un grand soir. Et en dessous se trouve le régime socio-technique dominant qui correspond au modèle agricole et alimentaire dominant et qui repose sur des alliances entre des acteurs politiques, financiers, scientifiques, professionnels, médiatiques, de la formation, mais aussi des marchés, et qui verrouillent le changement. L'usage des engrais et pesticides, ça a été bien démontré. La concentration des structures de distribution, largement également bien démontrée. La numérisation de nos échanges socio-économiques, des cultures alimentaires de produits ultra transformés. Et en dessous se trouvent des niches qui rassemblent des acteurs et des connaissances inédites et où s'expérimentent des innovations en marge du système socio-technique dominant. C'est l'espace des alternatives, durables ou non. Alors, un régime hérité du régime dominant est un régime, et d'autre part, un régime émanant de la convergence des niches d'innovation pourrait-il coexister? Cette coexistence pourrait se traduire de différentes manières. Soit une compétition entre les régimes, soit une coopération entre régimes ou une ignorance réciproque, chacun des deux régimes développant sa propre chaîne de valeur et ciblant un certain type de consommateurs, de producteurs et de mangeurs. Et on assisterait alors à une segmentation de marché s'étendant à l'ensemble du ou des régimes sociotechniques, c'est-à-dire non seulement aux dimensions économiques, mais aussi aux normes, aux relations entre acteurs et aux pratiques. Et donc, cette question de la coexistence entre deux régimes, ou plusieurs, peut aussi se discuter selon deux angles, celui de la polarisation et celui du plafond de verre. Dans une logique de polarisation, la coexistence de deux régimes se ferait sur la base d'une organisation autour de deux pôles contrastés, avec la disparition des modèles intermédiaires. Alors, dernier point avant de conclure, c'est ma dernière diapo. Après ces illustrations, je souhaite aussi souligner que les chercheurs de l'ouvrage et du numéro spécial affirment trois postures épistémologiques différentes. Et celles-ci traduisent des positions contrastées des auteurs vis-à-vis de la connaissance, vis-à-vis des acteurs et vis-à-vis de l'action. Ainsi, je distingue la coexistence fonctionnaliste, la coexistence pensée sous l'angle des rapports de force et la coexistence fondée sur la transition. Alors, la première famille de travaux interroge les complémentarités fonctionnelles entre les systèmes et les propriétés adaptatives et d'innovation qui résultent de ces interactions. Par exemple, la complémentarité entre les filières courtes et longues qui sécurisent l'approvisionnement alimentaire de Montpellier rentre dans cette famille. Il s'agit par exemple d'examiner en quoi l'interaction entre les modèles agricoles optimise des ressources hétérogènes, notamment dans des territoires dont les conditions de milieu, d'aménagement ou d'organisation sociale sont diverses. D'autres travaux étudient en quoi les hybridations entre les modèles agricoles contribuent à multiplier des foyers d'innovation et sont ou non favorables au développement durable. L'exemple, par exemple, de cette alliance entre Carrefour et des petites organisations paysannes. Les interactions entre modèles agricoles peuvent aussi produire des capacités d'adaptation des systèmes agricoles et une résilience accrue des territoires, comme je l'ai dit, avec par exemple dans leurs aptitudes d'approvisionnement alimentaire. Et dans cette famille de travaux, le chercheur nourrit une analyse fonctionnelle, systémique, des situations de coexistence des modèles agricoles et alimentaires et assez apolitique. La deuxième famille de recherche étudie des rapports de force entre acteurs et les conditions de gouvernance d'une diversité de modèles agricoles et alimentaires. Et les travaux interrogent alors les effets de domination ou visent à réhabiliter des identités muettes, à lutter contre la marginalisation. Et ces travaux aspirent à dénoncer ou à résoudre des situations d'exclusion dans une critique des rapports de pouvoir économiques, politiques et sociaux. Et puis enfin, la troisième famille de travaux conçoit la coexistence comme une situation de transition. C'est un peu les travaux que je vous ai présentés de Philippe Barré et de Clémentine Antin. Donc c'est une situation de transition ou de transformation des modèles agricoles et alimentaires. Et le questionnement porte alors sur des trajectoires de changement qu'il s'agit de concevoir et de gérer. Et les enjeux sont alors de décrire et d'accompagner des évolutions plus ou moins radicales, plus ou moins adaptatives, plus ou moins sélectives ou plus ou moins inclusives, plus ou moins spécialisées ou plus ou moins diversifiées. Et là, ces types de travaux interrogent le management des transitions. Alors, cette catégorisation des postures épistémologiques a le mérite de donner des clés de lecture de l'engagement du chercheur dans le changement et, ce faisant, dessine un gradient de politisation plus ou moins forte de ces questions et des cadres analytiques mobilisés. Néanmoins, ces trois postures épistémologiques ne sont pas exclusives les unes des autres. Alors, un dernier point, c'est que les hybridations qui sont générées à l'interface des modèles agricoles et alimentaires sont parfois l'expression d'une conventionnalisation. Hein, on en a beaucoup parlé hier dans l'atelier sur les labels. Une conventionnalisation des niches d'innovation du fait de l'affaiblissement des principes initiaux que les acteurs, et des visées premières de l'innovation. Hein, le commerce équitable en est un exemple assez exemplaire. Et les hybridations s'établissent alors au bénéfice des acteurs en situation de pouvoir qui absorbent la rente d'innovation générée par les pionniers, souvent en situation de marginalité sociale, économique, territoriale et politique. Et donc, il nous semble nécessaire de conserver un œil critique sur les modalités d'émergence et de fonctionnement de ces hybridations. Les formes de régulation politique, socio-professionnelle, citoyenne sont des repères essentiels pour instruire les controverses, gérer les conflits et préserver des ambitions de durabilité, d'éthique et d'équité. Voilà, je vous remercie de votre attention.